Journal des sports de ce dimanche avec tout d'abord le tennis à Paris-Bercy. Eh bien, la finale aura lieu ce dimanche entre le Serbe Novak Djokovic et Daniil Medvedev, le Russe. Les précisions de Eric Mamrut pour RFI.
Oui, c'est la finale idéale entre le numéro 1 mondial et son dauphin. Mais on a failli ne pas la voir, cette affiche de rêve, puisque Novak Djokovic a souffert mille maux pour se défaire tout à l'heure du Polonais Hubert Hurkacz, 8e mondial. Le score 3-6, 6-0, 7-6 pour Novak Djokovic, qui atteint ainsi la 7e finale parisienne ici à Bercy de sa carrière. Il en a remporté 5. Daniil Medvedev, lui, s'est baladé 6-2, 6-2 face au numéro 4 mondial Alexander Zverev. Il est en forme, il partira favori demain pour faire comme à l'US Open, donc il y a 2 mois, battre Novak Djokovic. Mais le Serbe peut déjà se consoler puisqu'il a assuré sa place de numéro 1 mondial à la fin de l'année, ceci pour la 7e année. C'est un nouveau record, il dépasse maintenant l'Américain Pete Sampras.
Et puis le beau parcours du Français Hugo Gaston, qui a pris fin d'ailleurs vendredi face à Medvedev, le Russe, en quart de finale. Son parcours donc avec Eric Mamrut pour RFI.
Il est ressorti de sa boîte, le diablotin toulousain. Sa patte gauche magique a de nouveau rendu fou ses adversaires. Comme à Roland-Garros l'an dernier, lorsque Stan Wawrinka avait dû s'incliner et que Dominic Thiem l'avait emporté de justesse. Cette fois à Bercy, ce sont 5 joueurs mieux classés qu'Hugo Gaston qui ont succombé, écœurés par la cuisine indigeste du diablotin. Anderson et Musetti en qualification, puis Rinderknecht, Carreño Busta, 17e mondial, et Carlos Alcaraz, le jeune diamant espagnol. Seul Daniil Medvedev, le russe tenant du titre, a su se sortir du guépier en quart de finale, non sans avoir sauvé 3 balles de première manche. Mais qu'importe, Hugo Gaston a fait vibrer le public parisien cette semaine tout en affichant ses progrès. Forcément de quoi être satisfait. Hugo Gaston.
Il y a quand même beaucoup de fierté derrière tout ça. Je trouve que j'ai très bien géré les moments clés de chaque match. Bon, malgré aujourd'hui, mais voilà, ça fait partie du jeu. Globalement, je suis très content de ce que j'ai fait, puis aussi de mon état physique, parce que j'ai joué beaucoup de matchs longs et j'ai toujours répondu présent. Donc voilà, c'est un très bon point. Le public qui m'a poussé, c'était incroyable sur le terrain, d'entendre son nom comme ça. C'est aussi dans une atmosphère comme ça que j'aime jouer. C'est aussi pour ça que je joue au tennis.
Le public bluffé par le culot et surtout le talent si particulier d'Hugo Gaston. Bluffé par cet ovni d'1m73 à la main d'or, capable de faire les coups les plus déroutants pour ses adversaires qui se mettent alors à déjouer. Même Daniil Medvedev a été impressionné.
Très bon match de sa part. Il peut frapper fort. Il a fait quelques winners sur des moments importants. Ça, c'est une force. Il peut faire de bons amortis, ça tout le monde le sache, mais c'est pas facile de courir toujours en avance. Surtout ce qui est pas facile, qu'il est capable de faire tourner la balle et de jouer fort, et il est capable de faire l'amorti en même temps sur la même balle. Donc c'est là où c'est difficile parce que tu sais toujours pas ce qu'il va faire, donc pour les jambes c'est pas facile. Il retourne bien et surtout encore une fois on revient vers les balles ici qui sont très lentes, bah, ça lui plaît, comme ça il a du temps sur beaucoup des frappes, du temps pour défendre. C'est pour ça aussi qu'il a pu faire ce parcours-là ici. Ouais, il joue bien. Bah, il faut continuer ça, je ne vais pas dire 30 semaines dans l'année, mais je ne sais pas, 5-10 semaines dans l'année, ça peut être assez pour monter un classement. Et bah, c'est ça le plus important.
Être régulier, voilà en effet le prochain défi d'Hugo Gaston, qui grâce à sa folle semaine, va passer de la 103e à la 67e place mondiale. Le Toulousain va ainsi pouvoir se frotter plus régulièrement, meilleur dans les grands tournois et continuer sa progression. À son rythme, lui qui était 239e au classement l'an dernier avant son épopée à Roland-Garros. Alors que les Tsonga, Gasquet et Simon sont sur le déclin, que Lucas Pouille a plongé après son opération au coude et que le jeune Hugo Humbert alterne le meilleur et le pire, le tennis français tient donc peut-être une nouvelle étoile.
Le russe Medvedev est francophone également. Que pense-t-il de Paris? Reportage Eric Mamrut pour RFI.
I love Paris in the springtime.
Il fait bon être francophone cette année à Bercy. Daniil Medvedev put ressentir l'amour du public parisien à son égard. C'était au printemps dernier à Roland-Garros. Le russe numéro 2 mondial, basé depuis plusieurs années dans le sud de la France.
J'aime bien jouer en France, surtout après Roland-Garros, c'était vraiment marrant. Et je me souviens très bien que les gens étaient pour moi, c'était vraiment sympa et même j'ai envie de dire un peu inhabituel. Donc j'espère qu'il y aura beaucoup de public. Bien sûr, j'espère que pour moi, je vais essayer de jouer avec eux. Je pense que que je le fais bien, donc ça me fait plaisir de revenir ici quand même.
Daniil Medvedev, vainqueur à Bercy l'an passé, mais dans le silence du huis clos, sûr qu'il aimerait bien remettre sa dimanche en finale sous les vivas du public de Paris. Because my love, she's there, she's everywhere, but she's really
here. La Billie Jean Cup, on parle de la Fed Cup, comme on l'appelait autrefois, c'est à Prague, et la finale a été gagnée par la Russie contre la Suisse hier. On passe au foot, la Ligue 1 en France, deux matchs, Angers et Lille ont fait match nul, un but partout, le Paris Saint-Germain s'est imposé contre Bordeaux, 3-2. En Angleterre, le derby Manchester City-Manchester United, remporté donc par les Citizens, comme nous l'explique Philippe Auclair sur place pour RFI.
Capable de jouer devant son public. Alors au niveau du classement, ça n'est pas catastrophique, hein, puisqu'ils ont 17 points, donc ils sont encore à la 5e place, même si ça pourrait se faire dépasser par Arsenal, par exemple, demain. Mais c'est surtout la manière, ou l'absence de manière, le fait que cette équipe n'a aucune énergie, n'a aucun style, n'a aucun fond de jeu, et au point que ça a poussé certains supporters de Manchester à dire qu'en fait le pire résultat n'était pas la défaite 5-0 contre Liverpool ou la défaite 4-2 contre Leicester, voire même cette défaite 2-0 qui aurait pu être beaucoup plus large si les joueurs de Manchester City avaient saisi leurs occasions, mais la victoire 3-0 contre Tottenham, parce que cette victoire avait permis à Ole Gunnar Solskjaer de rester en place et avait ensuite mené à la nomination d'Antonio Conte comme entraîneur de Tottenham. C'est vous dire que les choses vont très très mal. Et quand on sait qu'il y a une trêve internationale qui arrive, un moment toujours périlleux pour les entraîneurs de grands clubs qui vont mal, on peut se poser des questions sur l'avenir du Norvégien maintenant, vraiment sérieusement cette fois-ci, tant ce qu'a proposé Manchester United devant son public, qui a hué son équipe, ce qui est rare ici, mais Old Trafford a été pitoyable, il n'y a pas d'autre mot pour cela. Les choses doivent changer très très rapidement à Manchester United, et on voit difficilement que pourrait changer autrement qu'en ayant un nouvel entraîneur qui prenne la place du Norvégien, qui semble perdu quand on lui pose les questions, savoir ce qui va, ce qui ne va pas. Il semble comme les Anglais diraient, un lapin effarouché par les phares d'une voiture, et plus ça va, plus la situation empire à Old Trafford. Donc il est possible, voire probable, que Ole Gunnar Solskjaer vive ces dernières semaines comme entraîneur de Manchester United.
Chelsea et Burnley ont fait match nul, un but partout. En Espagne, le Real de Madrid s'est imposé contre Rayo Vallecano 2-1. Le FC Barcelone et Celta Vigo ont fait match nul, 3-2. En Allemagne, victoire du Bayern de Munich contre Fribourg, 2-1. Le Borussia Dortmund s'est incliné face à Leipzig, 2-1. En Italie, victoire de l'Atalanta Bergame contre Cagliari, 2-1. Et la Juve de Turin s'est imposée contre Fiorentina, 1-0. En Afrique, les qualifications de la Coupe du Monde de 2022. Le Mali jouera le Rwanda et l'Ouganda la semaine prochaine. Explication de Marie-Amélie Motte pour RFI.
De surprise dans la liste des 26 joueurs de Mohamed Magasouba. Les cadres sont là, avec le Rennais Amari Traoré, l'Amiénois Mamadou Fofana ou encore Amadou Aïdara du RB Leipzig. Les Aigles sont en tête de leur groupe et sont bien partis pour rejoindre les barrages. Il ne faudra pas trembler au Rwanda, puis face à l'Ouganda. Un match délocalisé à Conakry en Guinée. Les Maliens vont beaucoup voyager et avoir peu de repos. Cela ne plaît pas du tout au sélectionneur Mohamed Magasouba.
Imaginez que nous allons faire un très long voyage pour aller au Rwanda le 11, jouer là-bas, en altitude. On n'aura même pas 3 jours de récupération parce qu'on joue le 11, on n'a que le 12 et le 13 pour récupérer, pour jouer le 14. On va faire encore un très long voyage pour quitter le Rwanda et venir par exemple à Conakry. Si c'est Conakry, c'est encore pire. Parce que sur un terrain comme ça, un terrain lourd, le gazon de Conakry, tout le monde le sait, ce n'est pas un bon terrain. Et donc c'est obliger les joueurs à supporter une double charge. Une double contrainte.
Des propos recueillis par Mahamadou Kalouga.
On passe au rugby, les tests internationaux. D'abord les dames et les Françaises se sont imposées contre les Sud-Africaines 46-3. Chez les messieurs, victoire de la France contre l'Argentine. Cédric de Oliveira, sur place pour RFI.
Succès à 29 avant du 15 de France qui commence bien sa tournée d'automne, même si ça a été compliqué, hein, en tout cas plus que prévu. Les Bleus qui ont mis du temps à se mettre en route, les 40 premières minutes ont été donc délicates face à la bonne défense des Argentins. C'est l'arrière Melvin Jaminet qui a marqué tous les points des Bleus en première période, qui menait donc 9-7 à la mi-temps, puisque ces Bleus ont aussi encaissé un essai sur une erreur de Mathieu Jalibert contré sur un renvoi. C'est ensuite que le 15 de France a pris le dessus après le repos, donc supérieur physiquement. Il a marqué, ce 15 de France, deux essais, un de Thibaut Flamand, le néophyte, et un autre du finisseur Peato Movaca. Et malgré un essai argentin inscrit par Matteo Carreras en fin de match, eh bien, cette équipe de France, elle a tenu, elle a fait preuve d'une belle solidarité. Il faudra quand même montrer autre chose lors de la suite de cette tournée d'automne contre la Géorgie la semaine prochaine et surtout dans deux semaines face aux All Blacks. Choc très attendu, mais sur ce qu'on a vu de ce 15 de France ce soir, il y a encore une belle marge de progression pour espérer gêner ces All Blacks.
Et le Pays de Galles qui s'est incliné donc face à l'Afrique du Sud, 23-18. Voilà pour le journal des sports de ce dimanche.